Camille Magnard, votre revue de presse internationale, le Venezuela est plongé dans l'obscurité depuis hier soir.
Et ce n'est pas, Guillaume, une métaphore de la crise politique qui frappe ce pays, quoique, vous allez voir. Non, depuis la fin d'après-midi de ce jeudi, nous explique la télé d'opposition Globovision, 90% du territoire national vénézuélien est privé d'électricité. Internet, téléphone également coupé, hôpitaux paralysés, feux de signalisation et transports publics bloqués. À Caracas, le journal en ligne El Nacional raconte comment la circulation dans la capitale était compliquée. Hier soir, des milliers de travailleurs ont dû rentrer chez eux à pied. Des scènes fantasmagoriques, à en croire le récit des reporters d'El País America, où la métropole de 6 millions d'habitants n'était plus éclairée hier soir que par les néons des hôtels, à peu près les seuls bâtiments à posséder des groupes électrogènes. Tout ça, bien sûr, intervient dans un contexte de bras de fer politique et psychologique entre le président Maduro et son opposant reconnu par de nombreuses puissances étrangères, comme les États-Unis et la France, Juan Guaido. Et bien entendu, Nicolas Maduro et les siens ont très vite affirmé, par le biais des médias officiels vénézuéliens, que cette coupure d'électricité géante, c'est en fait une véritable guerre électrique menée par l'Amérique impérialiste contre le peuple vénézuélien. Plus précisément, la panne viendrait d'un sabotage commis par ceux qui soutiennent Juan Guaido, sabotage au barrage de Guri, autrement connu sous le nom de centrale hydroélectrique Simón Bolívar. Dans El Nacional, on cite le porte-parole en chef du régime chaviste, le ministre Jorge Rodríguez, pour qui ce sabotage est même une attaque technique et cybernétique contre le réseau électrique vénézuélien. Le ministre de l'Information et de la Communication ne fournit pas plus d'éléments tangibles à ce stade, mais hier soir, il a tenté de rassurer la population plongée dans le noir. Dans l'est du pays, affirmait-il, le courant a déjà été héroïquement rétabli à 100%. Le souci, c'est qu'il a été immédiatement démenti par des milliers d'habitants de ces régions de l'est qui ont commenté l'article d'El Nacional. The Guardian, enfin, nous explique que oui, les Vénézuéliens s'étaient habitués ces derniers mois, avec l'aggravation de la crise économique, à des coupures de courant régulières, mais rien de comparable avec l'ampleur du blackout actuel. Et si vous vouliez savoir si cette obscurité soudaine était une métaphore du chaos politique qui règne dans le pays, déchiré entre ces deux présidents, eh bien, j'en termine avec ce tweet de Juan Guaido en personne. La lumière reviendra quand cessera l'usurpation du pouvoir politique par Nicolas Maduro.
Et alors, puisque vous parlez de lumière, Camille, on peine à y voir clair dans la position du gouvernement italien sur le projet de ligne TGV Lyon-Turin.
Et dans cette affaire, on n'est pas encore prêt de voir le bout du tunnel, même si hier, les différents protagonistes du dossier ont un petit peu précisé leur point de vue. Le plus surprenant, nous dit Il Messaggero, c'est ce qu'a déclaré le président du conseil italien Giuseppe Conte. Lui qui est d'ordinaire le modéré, l'arrondisseur d'angle, en un mot l'arbitre des coups de bec entre ces deux vice-présidents, a laissé entendre ses sérieux doutes sur le fait que l'Italie a vraiment besoin de ce chantier du Lyon-Turin. Si les travaux commençaient aujourd'hui, il s'y opposerait, dit Conte. D'ailleurs, il demande à la France et à Bruxelles de rediscuter du financement de tout le projet. Alors forcément, ces déclarations laissent penser que Conte penche du côté de Luigi Di Maio, dont le mouvement 5 étoiles a toujours dit son opposition au Lyon-Turin. Et à l'opposé, Matteo Salvini de la Lega a réagi hier soir comme on pouvait l'attendre de lui. Il est cité par Il Giornale. « Je ne change pas d'avis, j'irai au bout », dit-il. « On verra bien qui de nous deux aura la tête la plus dure ». À quoi Luigi Di Maio dans Il Fatto Quotidiano répond que son partenaire de gouvernement est décidément irresponsable. Il lui rappelle que dans le contrat qui lie les deux formations politiques pour gouverner ensemble, le 5 étoiles a toujours fait du rejet du Lyon-Turin l'une de ses lignes rouges. Il menace donc de rompre l'alliance déjà moribonde si l'Italie, lundi, ne décide pas de suspendre sa participation au projet. Alors est-ce finalement cette ligne TGV sous les Alpes qui va provoquer la chute du gouvernement italien? En tout cas, ce matin, les titres de la presse transalpine sont sans équivoque. Dans tous, on retrouve le mot scontro, le choc, la collision. L'heure de l'ultime affrontement est venue, conclut Il Giornale.
Et puis Camille, la ministre du Travail Muriel Pénicaud vous écoute, elle est dans ce studio et vous souhaitez terminer votre revue de presse internationale avec un sujet qui va forcément l'intéresser, un sujet qui concerne son homologue suédoise.
Oui, elle s'appelle Jiva Johansson et avec 5 autres membres du gouvernement de centre-gauche alliés à la droite de Suède, elle signait il y a quelques jours dans le grand quotidien national Aftonbladet une tribune en forme de sonnette d'alarme. Rien que depuis le début de l'année, 12 personnes en Suède sont mortes au travail. C'est deux fois plus qu'à la même période l'an dernier et c'est inacceptable. Voilà donc le propos de ce texte au ton très volontariste qui appelle à la prise de responsabilité, en particulier des employeurs suédois. Ce sont eux, disent les six ministres, qui doivent s'assurer que les conditions de travail donnent tous les gages de sécurité à leurs salariés, que l'outil de travail est suffisamment entretenu pour garantir cette sécurité, que les tâches qui sont exigées des travailleurs peuvent être accomplies dans le temps imparti et que ces travailleurs sont correctement formés dans leur mission. Chaque mort, et on en compte un par semaine donc depuis le 1er janvier en Suède, chaque mort, dit la tribune des ministres, est inacceptable. Chaque mort est un échec pour le patron et pour la société tout entière, et de faire de cette question l'une des trois grandes priorités du gouvernement en Suède. Alors vous me direz que tout ça, à ce stade, ne sont que de belles intentions. On parle de convoquer un sommet sur le sujet avec les partenaires sociaux, rien donc de révolutionnaire. Mais au moins, le sujet est posé sur la place publique. Et Madame la ministre Pénicaud, est-ce que vous pouvez nous dire en comparaison en France combien il y a eu de morts liées au travail depuis le début de l'année, et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces morts-là, ils font face à une indifférence générale dans notre pays ?
D'abord, je salue Ylva Johansson, qui est une amie, une collègue. On a travaillé ensemble pour la directive détachée, pour les droits sociaux sur l'Europe, et je ne doute pas qu'on va travailler avec la Suède ensemble sur cette approche de bouclier social. Sur les accidents mortels au travail, c'est un sujet extrêmement brûlant, extrêmement important, sur lequel en France on stagne. L'année dernière, il y a eu 488 accidents mortels, tous sont toujours évitables. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. Et on a eu plus de 40 000 personnes qui sont entrées en maladie professionnelle. Ça stagne depuis des années. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une concertation avec les partenaires sociaux et avec ma collègue Agnès Buzyn. Elle commence dans quelques semaines. Nous aboutirons à un projet de loi parce qu'en France, sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles, on fait plutôt un peu mieux que les autres pays sur la réparation, c'est-à-dire la compensation, mais on n'est pas bon en prévention et ça va être une de mes priorités après l'assurance chômage de cette année.
Puisqu'on est sur une revue de presse, là je parle un peu d'un article français, mais France Bleu Creuse, nos collègues de France Bleu Creuse annonçaient hier qu'un jugement avait été rendu justement à Guéret sur une société de transport qui a été condamnée pour la mort d'un employé du BTP qui est mort brûlé vif par des tonnes de bitume qui sont tombées sur lui parce que la benne de chantier avait été mal entretenue et la société a donc été condamné à verser 10 000 euros au pénal d'amende, dont 5 000 euros avec sursis. Est-ce que ce genre de sanctions au pénal sont suffisamment fortes pour, en tout cas, mobiliser les employeurs ?
Alors, en tant que ministre, je ne peux pas commenter une décision de justice, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le travail qu'on va faire sur la santé au travail, la priorité, c'est la prévention, mais évidemment, on reverra aussi tout le système de compensation et de sanctions si jamais c'était nécessaire.